France Culture.
Esprit de Justice qui, ce soir, vous propose une rencontre avec un homme, avec un parcours, avec un espoir. J'ai la chance, en effet, de rencontrer Khaled Miloudi. Dans l'émission Esprit de Justice, souvent on considère les problèmes d'en haut, du point de vue des acteurs de la justice, des chercheurs ou encore des militants. Plus rarement, en adoptant le regard d'en bas, en écoutant les gens qui subissent la justice et qui tentent d'y résister, du moins de résister à l'injustice. Esprit de Justice vous propose donc ce soir un regard de ce point de vue, un regard d'en bas, à travers le parcours d'un homme qui a subi très tôt toutes sortes de violences. Celle de l'histoire, tout d'abord, une histoire à laquelle il était trop jeune pour participer, mais qu'il a subi, qui est aussi la nôtre, français. La violence de la rue, la violence des institutions qui étaient censées pourtant l'aider ou le redresser, mais qui l'ont plutôt enfoncé. Mais Khaled Miloudi a su les traverser sans se laisser abîmer par elles. Il a puisé l'énergie de cette victoire contre lui-même et contre les injustices, non pas dans, ou pas uniquement dans l'assistance des services sociaux, ni dans les répressions, mais dans la langue française, une langue qu'il a aimée très tôt, alors qu'elle n'était pas la sienne, une langue qui lui a fourni les ressources d'élaborer sa peine et de donner forme à ses aspirations à la liberté, une langue qui lui a permis non pas de s'évader de ce destin, mais de le mettre en mots pour le dépasser. Le parcours de Khaled Miloudi illustre cette phrase de Camus, c'est le rapprochement que j'ai fait dans le discours d'Oupsal. Camus dit « Le monde n'est rien et le monde est tout. Voilà le double et inlassable cri de chaque artiste vrai. Le cri qui le tient debout, les yeux toujours ouverts, et qui, de loin en loin, réveille pour nous, au sein du monde endormi, l'image fugitive et insistante d'une réalité que nous reconnaissons sans l'avoir jamais rencontrée. » Et bien, Esprit de Justice va donc élaborer avec Khaled Miloudi, poète qui a passé de nombreuses années en prison, auteur d'un ouvrage, « Les couleurs de l'ombre » aux éditions des Équateurs, qui a été publié en 2022. Et j'ai eu le plaisir de le recevoir d'ailleurs à cette époque-là. Et Khaled Miloudi anime des ateliers d'écriture en prison et en direction d'autres milieux défavorisés. Il a créé une association intitulée « Dans l'ombre, la lumière ». Et c'est une association à but éducatif, social et de réinsertion. Et enfin, il a créé un spectacle qu'il produit en France et peut-être ailleurs, il nous l'expliquera, avec Raphaël Goldman.
France Culture. Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir Khaled Miloudi.
Bonsoir.
Alors merci d'avoir répondu à mon invitation. Après avoir lu les couleurs de l'ombre, dont vous aviez eu l'occasion de dire un mot à ce micro, mais j'ai voulu vous réinviter pour vous consacrer une émission qui retrace en quelque sorte votre itinéraire et votre rapport à la langue. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, votre itinéraire on commence par le camp de Ribzalt.
Oui, l'arrivée d'Algérie en 65 et le placement dans ce camp, dans cet endroit sinistre des hommes.
Oui. Hein,
puisque les opposants à Franco avaient été internés aussi là-bas.
Des juifs.
Et des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des juifs et des tziganes qui, avant de partir vers les camps de la mort, étaient parqués là-bas comme on l'a été. Et j'étais touché de savoir qu'aujourd'hui, c'est un mémorium. C'est-à-dire que les lycées, les collèges vont visiter, il y a une stèle à l'entrée, et ils vont visiter ce camp.
Donc, c'est ça. Voilà. Vous l'avez vécu dans votre chair.
Je l'ai vécu, j'ai passé un an, on a passé un an, moi et mes deux grands frères, ma sœur et mes parents, on a passé un an dans ce camp.
Et quels souvenirs vous en gardez?
De très mauvais souvenirs, surtout le visage de ma mère. On était une centaine dans une espèce de gymnase en tôle ondulée. Il faisait très chaud, aucune intimité, donc les femmes tiraient des ficelles et mettaient des draps pour avoir un peu d'intimité. Et bien sûr, on mangeait la nourriture, c'était des boîtes de conserve, c'était des rations de l'armée. Et puis les mamans, à cette époque-là, allaient laver le linge au battoir. J'accompagnais souvent ma mère, j'étais petit, souvent la voir. Donc quand j'ai relu Zola, L'Assommoir, ça m'a rappelé des souvenirs. Et j'ai su, je crois, après aussi, tout ce qui s'est passé, cette misère, cette souffrance. Et je me suis demandé pourquoi on parquait à ce moment-là les gens ici, quoi. Abominable, un endroit vraiment lugubre.
C'est ça. Et alors c'était en 65, donc c'est 3 ans après la fin de la guerre. Alors on reviendra sur l'itinéraire de votre père, mais votre père est particulièrement, comment dirais-je, troublé, choqué de se retrouver dans ce camp.
Ah oui, ouais, pour lui c'est la mort dans l'âme qu'il a quitté l'Algérie. Et je crois qu'il en a souffert toute sa vie. Il en parlait très peu, mais il en a souffert toute sa vie et c'était... Chaque jour, lui comme ma mère vivait ça comme une souffrance.
C'est ça. Et alors, il faut rappeler que votre père était un combattant de la bataille de Monte Cassino pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a combattu avec les armées françaises et les alliés contre l'armée allemande, contre les nazis. Et il a d'ailleurs, on peut dire, c'est un héros de guerre. Il a été décoré à plusieurs reprises.
Il avait beaucoup de médailles et en plus, voilà, il les a gagnées sur les champs de bataille, que ce soit Monte Cassino. Il a été prisonnier pendant un an en Allemagne. Il a réussi à s'évader. Ils sont partis, ils étaient 54, ils sont arrivés quand ils ont traversé le Rhin, ils étaient que deux. Et toute sa vie c'était l'armée quelque part. Il n'en est jamais sorti de l'armée.
C'est ça.
Il s'est engagé à l'âge de 17 ans et il n'en est jamais sorti. Il a fait aussi Diao Dien Phu, il a fait aussi la guerre d'Indochine.
Ah oui, donc il a effectivement, c'était un militaire, quoi. Militaire dans l'âme.
Il était sergent-chef. Après, la mort dans l'âme aussi, je crois qu'il en parlait très peu, mais il touchait un quart de sa solde. Et ça, je sais que ça l'a beaucoup
touché. Pourquoi un quart de sa solde?
Parce que c'était comme ça, je crois que le président Chirac en avait parlé un peu, pour essayer de rééquilibrer un peu, mais voilà, les Algériens, comme la plupart des Marocains, des Tunisiens qui avaient combattu, les tirailleurs sénégalais aussi, touchaient le quart de la solde. Pourtant, il était sergent-chef.
Et à laquelle il avait droit.
À laquelle il avait droit, d'autant que voilà, il était en première ligne, lui comme ses copains étaient en première ligne.
Bien sûr.
Contre l'ennemi et ça, je sais qu'il en parlait très peu, mais ça le rongeait de l'intérieur.
Oui, c'est ça. D'autant que il se trouve qu'il a été décoré, il a reçu beaucoup de décorations.
Énormément.
Oui, énormément de décorations sur le champ de bataille.
Et il les portait fièrement.
Oui, bah oui, bien sûr.
Dans son costume 3 pièces.
Oui, bien sûr. Et dont une qui lui a été remise
par le général de Gaulle.
Par le général de Gaulle.
Et aujourd'hui, en plus, le 18 juin, voilà. Ah, ça fait 85 ans qu'il y a eu ce fameux appel du général de Gaulle. Oui, il a été décoré médaille du courage. Par le général de Gaulle, lui et toute sa garnison.
Et alors, il gardait cette photo pour lui, c'était quelque chose d'important.
Ah, c'était symbolique, la photo, et puis il y avait aussi une médaille en bronze, je crois, qui trônait sur le meuble du salon. Ouais.
Voilà. Ouais. Et donc, un ressentiment à l'égard de la France?
Lui, très sincèrement, non. Il nous a toujours élevés dans la fraternité. On avait des copains qui venaient à la maison, des copines, et il n'y avait aucun problème. Ils étaient reçus comme nous. Donc non, je pense que ce qui le rongeait de l'intérieur, c'est le fait d'être encore un sous-homme aussi après en France, notamment que ce soit pour la solde. Lui, il est analphabète, donc il souffrait aussi il avait du mal à s'exprimer. Et je crois, moi, que j'avais touché l'importance de la rhétorique, inconsciemment, déjà, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, et on allait courir les bureaux pour récupérer un papier dans les administrations. Je voyais le regard moqueur un peu des gens, même quand on allait prendre un verre dans une orangina, dans un café, le regard moqueur, ou les magasins, le regard moqueur des gens. Et il n'était pas dupe, en rentrant, il nous en parlait. Il nous disait qu'il fallait absolument savoir s'exprimer pour gagner sa place, quoi, que c'était important, justement, de manier la rhétorique.
Alors, vous allez à l'école, et très tôt, ça marche bien en français.
Oui. Il y a mon grand frère qui copiait sur moi, qui a redoublé. Et moi, je me suis découvert une passion, un amour pour la langue française, oui, que j'ai toujours aimé et que j'aime toujours. Oui.
Alors que, dans la famille, on parlait arabe.
On parlait en rap, je suis trilingue, bon, je parle anglais, mais à la maison, on parlait la langue maternelle, oui, tout à fait.
Oui, c'est ça. Et donc, mais alors, il y a aussi cette. Quand de Rivesaltes, et puis après, vous êtes ballotté, on peut dire ballotté de camp en camp, parce que votre père était violent.
Oui. Après ce camp de Rivesaltes, pendant durant une année, mon père, malheureusement, hein, j'ai compris plus tard, et j'en parle dans mon livre, hein, je lui ai trouvé de nombreuses excuses, il souffrait du syndrome post-seconde guerre mondiale.
Ah oui.
Aujourd'hui, on le sait qu'on a besoin de voir des psy.
Le PTSD, quoi, le syndrome post-traumatique.
Ah, mais tout à fait, pleinement. Oui. Tout découlait autour de la guerre, ces anecdotes, la façon de notre éducation aussi, ce côté militaire, on était arrivé à 6h du matin, on avait 5 minutes pour aller se laver, montre en main. Voilà, c'était carré, les draps au carré, hein, on faisait les draps tous les matins, 6h du matin, chacun faisait ses draps au carré.
Comme à l'armée, quoi.
Comme à l'armée, exactement. Le matin, ils nous réveillaient à coups de clairon. Et pour l'anecdote, j'avais des copains qui venaient parfois dormir à la maison, ils venaient qu'une fois, ils venaient plus. Hein. Prends le bas de combat à 6h du matin. Et puis malheureusement, des fois, quand voilà, il avait encore ces monstres, voilà, ces diables qui revenaient, ces traumatismes, ben, il montait des embuscades parce que le voisin, un jour, ne l'avait pas salué. Et il pensait que justement, il allait avoir un guet-apens et il rentrait dans cette espèce de...
Ah oui, de parano, de pensée de l'ennemi, quoi.
Tout à fait, oui. Tout à fait, ces traumatismes qui remontaient. Et il était extrêmement très violent, même avec nous, avec ma maman, et même avec les autres.
Et particulièrement avec vous.
Oui, parce que j'avais ce côté rebelle, je crois, rebelle, alors, entre guillemets, puisque je m'interposais souvent entre lui et ma maman. Et quelque part, il m'a pris en grippe et je l'ai pris aussi en grippe et je refusais un peu son autorité. Donc, je suis devenu un petit peu le mauvais canard, le vilain canard de la famille, quoi.
C'est ça. Et en prenant des coups.
Oui, il était très violent. Il aurait pu, à chacun de ses coups, il aurait pu me tuer comme il aurait pu tuer ma maman, puisque voilà, il était aveuglé, il était dans une espèce de colère, de rage, qui éruptait comme ça et rien ne pouvait l'arrêter. Donc oui, effectivement, et c'est pour ça que j'ai été placé.
C'est ça. Vous avez été placé assez jeune, 11 ans.
Oui. Hein.
Vous êtes placé par le juge des enfants et vous allez dans un foyer, séparé de votre famille.
Arraché.
C'est ça.
Excuse-moi, vraiment arraché. Alors avant d'aller au foyer, j'ai fait deux familles d'accueil. Et là, ça a été terrible aussi, c'était très violent. Première famille d'accueil, un couple d'agriculteurs, très âgés, qui parlaient très peu, des taiseux, comme on dit. Hein, on entendait juste le bruit de la soupe le matin.
Ouais.
Et aucune communication avec eux, en dehors des tâches de la ferme à exécuter. Donc voilà, moi je m'occupais des animaux, donc voilà, c'était les meilleurs moments, hein, puisque je découvrais des animaux aussi que je n'avais jamais vus. Hein. La pluie aussi, j'aimais patauger dans les flaques d'eau, parce que voilà, j'avais pas connu la sensation de la pluie. Et une deuxième famille d'accueil aussi, puisque ça n'a pas collé dans la première, une deuxième famille d'accueil qui était en instance de divorce. Donc ça n'a pas collé non plus.
L'ambiance n'était pas terrible non plus.
Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé dans un foyer d'adultes, puisqu'il n'y avait pas de place dans un foyer pour mineurs. Donc voilà, je me suis retrouvé dans un foyer où il y avait beaucoup de migrants asiatiques, des boat people.
C'est ça. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que finalement, cette violence qui a été aussi votre problème, vous, Khaled Miloudi, dans votre vie, vous l'avez soignée en faisant de la boxe.
Oui, ça a été une école de la boxe, ça a été une école de la vie, avec sa morale, avec sa discipline, avec sa rigueur, et j'ai pu, mon entraîneur avait senti que j'avais des capacités et que j'étais doué, et effectivement la boxe m'a permis de canaliser un peu cette violence et cette fougue qui était en moi.
Une sorte de colère, vous aussi vous aviez hérité de la colère de votre père, sans cause, quoi, finalement.
Oui, alors la colère pour moi, elle m'habitait, c'était moi aussi, voilà, les traumas que j'avais, c'était la vision de ma mère frappée, elle finissait souvent dans la voiture du SAMU, donc elle repartait. C'était quand même voilà, c'était très violent.
Très très violent.
Ou enfermé dans une pièce, allongé par terre, évanoui, et moi à côté d'elle. Donc voilà, ça m'a poursuivi longtemps. J'ai fait pas mal de cauchemars par rapport à ça, et je crois que cette violence venait de là aussi. J'ai pu mettre des mots dessus après. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis un peu érigé en redresseur de tort.
Oui.
Un peu comme un Don Quichotte de la Manche. À chaque fois qu'il y avait une injustice, c'était plus fort que moi, au péril de ma vie, il fallait que j'intervienne.
Donc ça vous a attiré des ennuis, ça, Khaled Miloudi?
Oui, de nombreux ennuis, mais je pense que c'était aussi ma part d'humanité et puis ces traumatismes quelque part qui justifiaient cette réaction.
Alors souvent dans la vie d'un homme, il y a un moment où ça bascule en bien ou en mal. En ce qui vous concerne, c'est il y a une première bagarre, une course-poursuite, mais qui pour vous est une bagarre entre mille autres, quoi, entre beaucoup d'autres. Mais cette fois-ci, vous faites connaissance de la prison.
Oui. Oui, ça a été un tournant aussi. Il y en a eu quelques-uns, mais celui-là, ça a été le premier, je pense, en dehors de ces carences affectives, de cette violence qui m'habitait. Et puis voilà, j'étais dans une forme de déshérence, hein, puisque j'ai connu après l'école de la rue, j'allais voler pour manger. J'ai d'abord connu la délinquance alimentaire. Hein, c'est vrai, j'allais vraiment voler pour manger. Et puis à la sortie de cette boîte de nuit, je venais fraîchement de finir exécuter mon service militaire. Suite à des insultes racistes, j'ai réagi, crochet gauche, et j'ai poursuivi le deuxième, que j'étais en train de frapper quand une voiture de police est passée. Et effectivement, pour moi, j'allais faire la garde à vue, me justifier, assumer mes responsabilités, et que ça s'arrêtait là, quoi. Et du coup, non, après les 48 heures, comparution immédiate, il y en a encore aujourd'hui, aucune enquête sociale, donc je pense qu'il y aura une enquête sociale. L'institution judiciaire aurait pris peut-être une autre décision.
Oui, oui.
Et 48 heures après, je me retrouvais à Fleury-Mérogis.
Et là, vous basculez dans un autre monde.
Bien sûr. Déjà, par rapport à cette enfance que j'avais eue, ces non-dits, cette chape de plomb, puisque j'étais pudique, je disais à personne que j'étais violenté, que je dormais parfois à la rue, que j'avais du mal à manger. Et d'un seul coup, je me retrouve tout nu devant des surveillants qui me demandent de me déshabiller. On me donne une tenue droguée, puisqu'à l'époque, j'ai connu la prison aussi à l'époque. On était tous habillés pareil, on n'avait pas nos vêtements civils. Hein, avant que M. Badinter intervienne et qu'il prenne des décisions en 86. Et à partir de là, je suis devenu un numéro d'écrou, donc j'étais en colère. J'étais en colère, j'en voulais à la terre entière. Je comprenais pas, ma place n'était pas en prison à ce moment-là. Plus tard peut-être, mais là, ma place n'était pas là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en reparlera. Voilà, je m'attache à la transmission pour essayer justement de sensibiliser et d'éviter ce passage, ce premier passage en prison, puisque la prison reste un endroit criminogène, on le sait.
Mais alors, vous savez, aujourd'hui, les politiques, vous l'entendez comme moi, Khaled Miloudi, les politiques, ils ont que le mot prison à la bouche. Il faut plus de peines de prison, il faut tout exécuter, il faut des petites peines de prison, mais prison, 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 c'est la panacée universelle. Qu'est-ce que vous leur répondez, notamment sur les petites peines de prison?
Ben, je pense, avec mon expérience et puis avec tous les jeunes que je croise et que j'ai en atelier depuis 3 ans, donc des jeunes de la protection judiciaire, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, des collégiens, des lycéens,
des détenus.
Et des détenus. Mais bien sûr, la première peine de prison, il faut l'éviter absolument. Et je crois que même, c'est pas seulement pour les jeunes, même pour la cohésion sociale. On sait qu'en prison, elle est criminogène et elle va justifier. Elle va valoriser le jeune après dans la cité. Quelque part, non seulement on lui rend pas service, mais on rend pas service non plus à la société. Il y a d'autres alternatives que la prison. On le sait, il y a des pays nordiques qui pratiquent ces alternatives. Il y a le bracelet, il y a le bracelet électronique. Il y a la liberté conditionnelle où on est obligé de rendre des comptes. On peut être suivi par un éducateur. La première peine de prison, faut l'éviter.
Parce qu'une fois qu'on a le choc carcéral, on l'a une fois, on l'a pas deux fois.
Bien sûr. Et puis en prison, on côtoie des gens dangereux, des gens qui sont là pour... Moi, c'était mon cas, je suis rentré pour une bagarre et j'ai côtoyé des braqueurs.
Oui.
Et je suis devenu moi-même braqueur.
C'est ça.
Voilà, je fais pas l'apologie de ça. Mais en fin de compte, c'est en prison que j'ai découvert, que j'ai rencontré ces personnes-là. C'est pas dans la rue et c'est pas dans la vie que je menais, même si j'étais dans une forme de déshérence. Donc voilà, la première peine de prison, et puis après, bien sûr, le sens de la peine. Quand à un moment donné, il y a une sanction qui tombe, il faut que ça soit déjà la juste peine, il faut que la peine elle soit comprise, acceptée, et puis après, bien sûr...
Et ça, vous pensez que le détenu, quoi, le délinquant, celui qui a commis un délit, vous pensez qu'il a dans sa tête, il a un peu une peine? Qu'est-ce qui serait une peine juste?
Oui, bien sûr.
Ah oui?
Bien sûr. Je prends l'exemple, quand vous risquez 5 ans d'emprisonnement, par exemple, et vous en prenez 5... alors que d'autres en prennent 2 ou 3, il y a comme une forme d'injustice. Et vous savez que on est pour l'individualisation de la peine, c'est-à-dire que pour le même délit, que vous passez à Caen ou vous passez à Paris, vous n'aurez pas la même peine.
En principe, oui.
Et donc, du coup, voilà, ça crée aussi des tensions aussi. Et puis après, selon les délits aussi. Voilà, pourquoi lui a fait ça, prend ça, pourquoi moi... Voilà. Et après, bien sûr, c'est la réinsertion doit commencer le premier jour de la peine, et non pas le dernier.
Oui.
Moi, on m'a parlé de réinsertion au bout de 19 ans.
Combien vous avez passé de temps en prison en tout ?
J'ai fait plus de 29 ans et demi de prison, ouais. Presque 30 ans de prison.
Presque 30 ans de prison, ouais. Et pas d'une seule traite, vous avez...
Là, j'ai fait 22 ans, là, sur celle-là. J'ai fait 22 ans d'incarcération. Et sur les autres, j'ai fait 6 ans, 3 ans et ma première année pour la bagarre.
Je suis entré dans la vie comme on pénètre dans le noir. Transfert à la maison centrale de Saint-Maur. Le lendemain de mon arrivée, au cours de la promenade de l'après-midi où je rencontrais mes nouveaux camarades d'infortune, des détenus du troisième âge me demandèrent quelle était mon addition. Je répondis, 30 ans de réclusion criminelle. Un soir, tard dans ma vie, ils ont jailli comme un cri, les mots pour extraire les bleus sous ma peau. Les mots pour dire l'absence et ses affres. Les mots pour croire dans le noir.
Ya bladi, chalt wahashtek. Ana li zit fi trab ta3k fi Miliana.
Je connais chaque millimètre de ma cellule.
Ana li kbit hna fi Fransa.
La vie me manque. J'ai de la prison incrustée.
Ya bladi,
dans tout le corps.
Chalt wahashtek,
dans le cervelet. Étrangement, après toutes ces années de fuite en avant, je ressentais une forme de délivrance.
Ani wahdi, wahdi, wahdi fi l'lil, wahdi fi l'dunya.
Khaled El Oudi, ça c'est l'annonce d'un spectacle que vous faites, que vous avez monté, qui s'appelle Dans l'ombre la lumière, même nom que l'association que vous avez créée. Et il y a une musique du piano, on l'a pas tellement entendu, mais elle vient ensuite, une musique de Raphaël Goldman. Expliquez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à monter ce spectacle.
Raphaël Goldman, je l'ai rencontré en 2014 quand il y venait. Il était génépiste, donc étudiant en théâtre.
Génépiste, c'est-à-dire qu'il venait d'aller des cours en prison.
C'est ça. Et justement, avec la professeure, Madame Haute-Siméon, lui et Sébastien Thévenet venaient pour nous accompagner, nous aider à monter une pièce, Caligula, d'Albert Camus.
Oui.
Donc pendant un an, ils venaient deux fois par semaine dans la prison, lui et Sébastien. Ils venaient nous aider à monter cette pièce. Et après avoir monté cette pièce et après l'avoir jouée deux fois en présence de la petite fille d'Albert Camus, j'ai gardé contact avec lui. Moi, j'ai été transféré, donc j'ai une correspondance épistolaire. Et puis en 2017, lors d'une permission, je suis passé le voir chez lui. Et lui, il a un piano, puisqu'il est pianiste dans sa chambre. On avait bu un petit coup, il était 4 heures du matin. Et puis je me suis mis à déclamer de la poésie, lui a joué du piano. Et puis d'un seul coup, dès que j'ai entendu les notes de piano, eureka, quoi, il s'est passé quelque chose. Et lui aussi, on s'est regardé comme ça en se disant, mais c'est vraiment beau là, ce qu'on est en train de partager, de vivre. Et du coup, ben voilà, le lendemain, on a repris. Et puis à chaque permission, on a composé quelques musiques sur les poèmes. Et le spectacle est né comme ça, et puis on a été invité au Collège des Bernardins, on a fait quelques scènes, et puis là on s'est un petit peu plus, entre guillemets, professionnalisé, voilà, on joue un peu avec les lumières, j'ai un micro-casque, je me déplace un peu, j'ai une petite table comme dans la cellule, puisque voilà, j'essaie de mettre un peu les spectateurs en immersion dans cette cellule, puisque voilà, c'est des poèmes que j'ai écrits dans cette cellule, et c'est fou quoi, les gens, à chaque spectacle, chaque performance, les gens viennent me voir, ont envie de partager un moment avec moi. Après le spectacle, quoi, ils repartent pas, ils m'attendent, ils font la queue pour ne serait-ce qu'échanger quelques mots, pour en savoir un peu plus, quoi. Donc, je suis très touché.
C'est la phrase de Camus, l'image fugitive et insistante d'une réalité que nous reconnaissons sans l'avoir jamais rencontrée. C'est ça, la prison, dans le fond, c'est quelque chose dont tout le monde a peur sans la connaître.
Tout à fait. Et les gens sont surpris. Je pense que ça permet aussi de sensibiliser la société civile.
Hein, bien sûr.
Voilà, de leur parler de la prison et de la résilience, quoi. Et de leur dire que, quelle que soit la gravité des faits, je crois que M. Badinter le disait très bien, c'était ces deux chevaux de bataille. Hein. C'était, d'abord, on ne peut pas empêcher un homme à devenir meilleur. Mmh. Voilà. Quelle que soit la gravité des faits. Et la prison, moi, l'exécution de ma peine aurait pu me tuer, aurait pu me couper des autres et me couper de moi-même.
Et vous avez côtoyé d'ailleurs ce sentiment-là, Khaled Miloudi.
Bien sûr, il m'a habité longtemps, pendant de nombreuses années. J'étais en colère et j'en voulais. Pour moi, c'était une forme d'injustice dans l'injustice. C'est que j'étais condamné à 30 ans d'inclusion criminelle et on me donnait aucun moyen de devenir un homme meilleur. À part la salle de sport, quoi. C'était sport-cellule. Et puis, bien sûr, j'ai fait beaucoup de tourisme carcéral. Donc voilà, entre-temps, ben, les femmes, les parloirs s'estompent. Et
les liens familiaux aussi.
Les liens familiaux, les liens affectifs. Et on en veut encore plus. On se protège. On s'aigrit parfois. Hein, j'ai malheureusement des co-détenus qui, au fil des années, se sont aigris parce qu'on les a coupés de leurs proches. À force de les transférer comme ça, parce que j'avais cette étiquette de détenu particulièrement signalée.
Pourquoi ? Parce que vous étiez une forte tête, toujours en prison ?
Non, juste par rapport à mes chefs d'inculpation. Comme j'étais quelqu'un qui était fiché au grand banditisme, l'administration pénitentiaire m'avait fiché comme détenu particulièrement signalé. Juste pour cette étiquette. J'ai jamais agressé un surveillant, et je me suis jamais évadé. Mmh. Et je dis avec une pointe d'humour, mes plus belles et mes plus réussies évasions, ça a été ces voyages immobiles que j'ai fait grâce à la littérature et grâce à la poésie.
Et quelques sorties pour passer des concours de poésie.
Oui, oui. J'ai eu, vers la fin de ma peine, j'ai eu la chance d'obtenir le prix national Blaise Sandard en 2016. Et j'ai été le chercher, j'avais été reçu par le maire de Vannes qui m'attendait en des escaliers de la mairie et agréablement surpris de voir que c'était pas pour une fouille, mais pour me mettre un prix de poésie, quoi.
Alors, expliquez-nous comment vous êtes arrivé, comment vous avez rencontré la littérature. Parce que là, vous aimiez la langue française, vous étiez bon en français à l'école, peut-être pour compenser cette absence d'accès à la parole de votre père, à l'accès à la langue française de votre père et de votre famille. Mais comment vous rencontrez la littérature?
La littérature, la poésie, se sont imposées à moi comme une évidence. J'étais au quartier d'isolement et on avait le droit à 3 livres par semaine. Et il y avait un chariot qui passait. Donc 3 fois par semaine, je prêtais l'oreille. Moi, j'étais en bout d'aile. Le surveillant commençait malheureusement toujours sur la droite. Et je prêtais l'oreille. J'étais suspendu à ce chariot qui grinçait, qui croulait sous les livres et qui grinçait. Et non par égoïsme, mais j'espérais que mes co-détenus ne fassent pas une razzia sur les romans. Et que je me retrouve pas encore, comme à chaque fois, ça m'arrivait souvent, de me retrouver, j'ai rien contre, hein, mais pour voyager, il y a mieux, avec les biographies de Max Gallo, de Napoléon.
Oui. Ça intéressait pas beaucoup les co-détenus.
Et pour voyager, moi, j'avais pas besoin de ça, je voulais des romans. Je voulais des romans, je voulais
des
la littérature.
Des romans, des romans classiques.
Voilà, je voulais de la littérature. Donc voilà, comment la littérature, dont je lisais, et des fois je tombais sur des pépites, et j'arrêtais de lire, parce que je me disais, mais je vais plus rien avoir à lire. Donc je prenais mon temps, je tournais les pages tranquillement, paisiblement.
Pour savourer.
Et puis après, quand je suis sorti d'isolement, j'ai pu accéder à la bibliothèque, et puis après j'ai pu me faire déposer des livres au parloir, puisque voilà, on avait des livres qui étaient arrachés, parce que les livres bouchés sont... C'est dur de voir un livre arraché, hein. Ça m'a toujours fait mal au cœur de voir un livre.
Oui, ils sont arrachés.
Parce que comme ils sont brochés, on arrache la couverture. L'administration pénitentiaire.
Il peut y se glisser quelque chose.
Une lame de scie, enfin peu importe quoi. Alors que les livres, comme les vêtements, passent au scanner, donc il suffisait de le passer au scanner. Mais voilà, les livres brochés étaient interdits parce qu'on pouvait cacher dans
Donc ils étaient mutilés quand ils arrivaient.
Ils étaient mutilés. Entre-temps, il y a pas mal de détenus aussi qui s'en servaient aussi, comme je dis dans un de mes poèmes, les vieux livres tachés, cornés, froissés, trop souvent arrachés, dont plus personne ne veut et qu'on a mis en revue, quoi. Des livres pour les hommes de l'ombre, quoi, quelque part.
C'est ça. Avec des romans qui sont pas intègres, il manque des pages.
Ouais. Et après, bien sûr, la nuit, dans ces voyages immobiles, voilà, je finissais l'histoire moi-même, quoi. Quelque part, ça me faisait travailler un peu.
Mais finalement, on pourrait croire que ce qu'on cherche dans la littérature quand on est en prison, c'est de s'évader. Mais c'est pas ce que vous diriez.
Non, parce que c'est comme à l'extérieur, en prison, lire, écrire, c'est continuer d'exister. C'est affirmer son existence. Ça va jusque-là. C'est pas seulement pour voyager ou pour tuer le temps. C'est carrément pour garder son humanité.
Parce que l'expérience de lecture, c'est comme dit Ricoeur, c'est une proposition de monde. Vous rentrez dans un monde.
Tout à fait.
Vous rentrez dans un autre.
Je découvre les autres. Je rencontre les autres. Je découvre le monde à qui je tendais un peu ma pomme. Je fissurais les murs. Je faisais passer l'amour, je faisais passer la joie, je faisais passer le soleil, je faisais passer la nature, je faisais passer les enfants. Voilà, au travers de la lecture. Ça me gardait vivant. Et je pense que ça m'a gardé humain aussi.
Donc, la littérature est indissociable. Pour vous, vous le dites d'ailleurs dans vos poèmes, le mot revient souvent, le mot « monde » vient souvent, ainsi que celui d'humanité.
Parce que, je reconnais, oui, parce que la prison est déshumanisante, la prison est désociabilisante. Et plus on essayait au travers de ces transferts, au travers des fouilles, au travers des discriminations que j'ai subies, des iniquités, plus on essayait de me déshumaniser, plus la prison me déshumanisait, plus j'avais besoin de m'enraciner dans cette humanité. Et j'ai écrit beaucoup de poèmes autobiographiques, mais j'ai écrit énormément de poèmes sur tout ce qui se passait dans le monde. Ça veut dire que la littérature, la poésie m'ont gardé vivant, humain, mais aussi ont aiguisé, amplifié mon âme de citoyen, mon âme citoyenne. J'ai écrit, j'étais comme une parabole intérieure qui recevait quelque part ce monde qui se délitait, qui allait mal. Et j'ai écrit des poèmes sur tout ce qui s'est passé ces 25 dernières années. C'était comme un besoin pour moi, c'était presque vital de mettre des mots sur ce qui m'avait touché.
Et de trouver le mot juste.
Et de trouver le mot juste, le mot qui touche dans le mille, le mot qui vous touche en plein cœur.
C'est ça, c'est ça. Et donc, quelle était l'attitude de vos camarades des coups détenus? Comment ils prenaient ça, votre amour de la littérature?
Alors, au début, pendant les premières années, mes co-détenus, ils savaient pourquoi j'étais en prison. J'étais en prison pour des braquages, pour des faits graves. Donc voilà, comme vous le savez, les braqueurs, c'est un peu le gratin en prison. Donc moi, j'en jouais pas. Et pour eux, j'étais devenu fou. Khaled est devenu fou, quelque part, enfin, en fin de compte, comme Caligula, quelque part, qui devient fou, quoi. J'étais devenu fou, j'étais rentré dans les rangs, quoi, quelque part, dans le rang, et petit à petit, alors ça vaut pour les surveillants aussi, hein. Pour eux, c'était une posture. Pour eux, c'était pour essayer de m'évader, pour essayer de trouver une issue de secours, quelque part.
Ils comprenaient pas.
Et petit à petit, ça a changé. Déjà, mes co-détenus, le regard de mes co-détenus a changé. Comment il a changé? C'est que des fois, on était en promenade, et je leur disais, les gars, on parle plus de prison. Cet après-midi, quand je descendais, je leur disais, on parle plus de prison. Racontez-moi des souvenirs d'enfance, le dernier livre que vous avez eu. Voilà. Je les obligeais à ne plus parler de leurs affaires, parce qu'en prison, on parle de ce qu'on a fait. On n'arrête pas. C'est répétitif. Pourquoi on est en prison? Comment on s'est fait arrêter? Et puis, petit à petit, je leur disais, je remonte. Alors qu'en centrale, on pouvait rester jusqu'à 19h en promenade, et moi, à 16h, je leur disais, je remonte. Mais non, Khaled, tu vas pas remonter. Si, si. J'ai un truc dans la tête, il faut que j'aille écrire. Et petit à petit, quand ils venaient me chercher pour des activités ou pour du sport, je leur disais, non, je suis occupé, je suis en train d'écrire. Petit à petit, j'ai vu leur regard changer. Parce que moi, grâce à l'écriture et à la lecture, le temps ne m'oppressait plus. J'étais le maître du temps. Sans aucune prétention quand je dis ça.
Mais bien sûr.
Oui. Le surveillant passait, par exemple, pour le repas. Je lui disais, non, ou moi-même, je disais au surveillant, venez m'enfermer. J'étais sûr de ne pas être dérangé avec les verrous qui claquent à chaque fois, ou le repas qui arrive. À 16h, je demandais au surveillant de m'enfermer, parce que j'avais besoin d'écrire. Et le matin, je me levais à 4h du matin pour écrire. La prison, c'est un endroit bruyant.
Oui.
Si je dois garder une chose de la prison, c'est le bruit. Le bruit. On peut devenir fou à cause du bruit. Vous êtes en prison, vous êtes privé de tout, et vous pouvez pas lire, vous pouvez pas écrire, vous pouvez rien faire, à cause du bruit. Vous pouvez pas, à cause du bruit. C'est un brouhaha de 7h du matin jusque très tard dans la nuit.
Il vient d'où ce bruit?
Ça peut être la musique, ça peut être des détenus qui se mettent à la fenêtre et qui parlent toute la nuit. Ça peut être un détenu qui a pas toute sa lucidité et qui tape dans le tuyau comme ça sans arrêt, ça résonne sur toute la longueur de l'aile. Pour plein de raisons, ça frappe. Un détenu qui a pas eu ses cantines, qui a pas eu son tabac, quelqu'un qui a pas eu son parloir. Enfin voilà, pour mille et une raisons, ça frappe. C'est le bruit. Donc je me levais très tôt. Les brumes de l'aube étaient inspirantes pour moi.
Oui.
Et petit à petit, le regard de mes co-détenus a changé. Et puis après, j'ai créé un atelier d'écriture.
Dans la prison?
En prison, que j'ai appelé les mots de l'ombre. Et j'ai été chercher les plus réfractaires à toute forme d'art. Ils ont traîné les pieds, comme c'est moi qui les sollicité, ils sont venus quand même. J'en ai venu au moins une fois. Et c'est fou, ils se sont pris au jeu. Au début, ils étaient dans la retenue parce que le théâtre, la littérature, la poésie, l'art en général, a du mal encore à se créer un chemin dans les consciences. Pour certains, comme pour moi, à un moment donné, on a des préjugés. L'art, la poésie, le théâtre, c'est pour les bobos, c'est pour les nantis, ça peut pas s'adresser à nous. Alors que quand on l'appréhende, on se rend compte qu'en fin de compte, voilà, c'est une lucarne vers la liberté. Et puis c'est une rencontre intérieure avant tout. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rencontré aussi.
C'est rencontré. C'est se rencontrer soi devant le texte.
C'est ça. Et j'ai su, moi, j'avais à peu près 52, 53 ans quand j'ai su qui j'étais. En écrivant. J'ai su, je suis revenu à l'essentiel grâce à l'écriture. L'essentiel étant l'humain pour moi. Je me suis débarrassé de cette cupidité que j'avais, de cette course folle pour l'argent. Et je pense que ça m'a permis aussi de devenir très humblement un homme meilleur. Et ça m'a réconcilié avec moi-même, mais aussi avec les autres, avec le monde.
Ce qui est essentiel quand on est en prison.
Bien sûr, bien sûr. Je dis les mots m'ont permis de mieux comprendre les autres, le monde, moi-même.
Mais et vous débarrassez de cette colère, Khaled Miloudi ?
Oui, je m'en suis débarrassé dans cette cellule. Dans cette cellule, il y avait pourtant un autre chemin, une autre issue. Je ne sais comment ni par quel miracle je me suis débarrassé de cette peau dans un coin de ma cellule. Cette mue enfin desséchée.
Et c'était à la fois un acte de lecture et d'écriture. Il fallait vous approprier le texte.
Il fallait, après avoir lu, inconsciemment, j'aime bien cette expression de boîte à mots, inconsciemment, plus je lisais, plus cette boîte à mots, je la remplissais. Et puis après, c'était beaucoup plus facile. Et quand on parlait tout à l'heure, vous m'avez repris sur le mot juste, sur le mot qui touche dans le mille. Des fois, la nuit, j'étais poursuivi par les mots. Et quand je disais à mes co-détenus, je suis poursuivi par les mots, ils me regardaient comme un extraterrestre, quoi. C'est pas possible. Là, j'étais vraiment devenu fou, quoi, quelque part. Pourquoi? Parce que je me levais la nuit, j'avais ma chaise à côté de moi, une petite lampe, un cahier, un stylo. Et je me levais, et dans un de mes poèmes, il y avait un mot qui n'avait pas sa place. Je me levais à 4h du matin, j'allumais et je changeais le mot. Et puis, il y a des poèmes que je créais la nuit, des poèmes. En fermant les yeux sur ma couchette, boum, je me levais comme le poème qui m'a valu le prix Blaise Sambard, Face contre sable, un poème que j'avais vu, que j'ai créé après une émission, après avoir vu une émission sur Théma, sur Arte, sur ce petit garçon, le premier émigrant qu'on a vu allongé sur une plage en Turquie, le petit Elan, justement. Le poème, je me suis levé à 3h du matin, il est sorti comme ça, d'un trait.
Comme si, Khaled Miloudi, on utilise souvent la métaphore des muses, hein, des muses, des personnes qui viennent vous parler. Comme si, il y a un moment, vous éprouvez une sorte d'urgence à écrire, une sorte de nécessité intérieure d'écrire.
Bien sûr, c'était vital, c'était nécessaire, c'était une nécessité d'écrire pour moi. Et au quotidien, d'ailleurs, je passais 4 à 6 heures par jour à écrire. Sur un des rapports des surveillants du CNE, du Centre National d'Évaluation, où on observe les observations, des observations, des observations. Hein. J'avais vu le rapport et de la commission de la CMS, commission...
Médico-socio-éducative.
Pluridisciplinaire. De sécurité. Khaled Miloudi passe son temps nuit et jour à écrire. Donc, même les surveillants l'ont écrit. Et puis, sur ma fiche pénale, c'était plus marqué, attention, risque d'évasion, détenu dangereux, c'était marqué, attention, détenu procédurier.
Ah oui?
Parce que j'ai fait deux procès à l'administration pénitentiaire que j'ai gagné. J'ai gagné le premier procès que je leur ai intenté pour éloignement géographique, c'est-à-dire que le maintien des liens familiaux n'avait pas été respecté. Et j'ai obtenu une jurisprudence qui s'appelle Miloudi Spinozzi, puisque ça porte mon nom et celui de mon avocat, dans le recueil Le Bon. Je crois que les avocats s'en servent aussi.
J'ai fait avocat au conseil.
Voilà. Et puis la deuxième, là, c'était terrible aussi. J'étais réveillé pendant 19 ans, j'étais réveillé toutes les deux heures. On appelle ça des réveils nocturnes.
C'est-à-dire?
Eh ben, toutes les deux heures, le surveillant ouvre l'œilleton, frappe à la porte, allume la lumière, donc un globe lumineux, et me demande de bouger la main ou le pied, enfin, de faire signe, comme quoi que je suis là, quoi. Je suis présent dans ma cellule. Oui. Toutes les deux heures. Alors, pendant que j'étais DPS, durant ma détention, quand j'avais cette étiquette de DPS, c'était justifié par rapport à cette étiquette-là. Même si reste un traitement inhumain et dégradant. C'est pas parce qu'on est DPS qu'on doit vous réveiller toutes les heures. J'ai pas fait de recours, mais par contre, en 2017, je commençais à avoir des permissions. Donc je sortais en permission, et le soir, quand je rentrais, on me réveillait pour savoir si je m'étais pas évadé. Oui. J'ai trouvé ça tellement incongru, et là, je me suis dit...
C'est contradictoire, incohérent, absurde, quoi.
Et là, j'ai compris que c'était vraiment pour me détruire. J'ai pas compris le sens de cette mesure. Donc j'ai pris mon stylo, j'ai saisi le tribunal administratif, et j'ai obtenu gain de cause. J'ai attaqué comme traitement inhumain et dégradant.
Mais Khaled Miloudi, est-ce que c'est pas ça, finalement, le droit? Le droit, c'est de substituer des mots à la violence.
Mais tout à fait. Et j'ai compris, et je faisais part à mes co-détenus. Je savais que la réponse... J'allais l'obtenir une fois que j'étais libre. Je l'ai fait en 2017, et je l'ai eu en 2021. Depuis un an, j'étais en semi-liberté. Et j'ai poussé certains co-détenus aussi à éviter de se mettre en colère, de monter sur le toit, de se couper, d'agresser un surveillant. Plutôt. Et j'ai compris là la force et la puissance de la plume, quoi.
Oui. D'ailleurs, oui.
J'ai résisté. Là, j'ai mis des mots dessus. J'ai compris que je résistais avec la plume. En écrivant, en fin de compte, je faisais un acte de résistance. Et j'ai lu après les grands poètes qui ont, Apollinaire, Blessandard, qui ont perdu leurs mains sur une tranchée en 14-18. Et puis tout au long de même, Federico Garcia Lorca aussi. Enfin, j'ai compris Pessoa. J'ai compris que les poètes résistaient aussi avec la plume.
C'est ça. Ils résistaient avec la plume. Il y a un des mots qui ont résonné dans votre tête, Khaled Miloudi, des mots de Christian Bobin, ouais. Que vous avez entendu dans une émission de télé, d'ailleurs. La Grande Librairie. Et il écrit cette phrase, peut-être vous voulez la dire.
Bien sûr, je la connais. Écrire, c'est dessiner un mur, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable, et puis l'ouvrir. Et là, d'un seul coup, voilà. Je l'ai scotché en face du mur, hein. Elle était en face de moi et voilà, tout est là, quoi.
يا قمري ودي سلامي للغربة واللي يراه غريب مشتاق الأوطان بلغ له سلام أرض المحبة الجزائر أمنا عز البلدان بمدنها بريافها وطن الوجبة بغيبها بشطوطها زينة الألوان خوض سلام مدونها ليك محبة كل مدينة وناسها في كل مكان وإذا جيت تزورها يا مرحبا أهلا وسهلا بيك لبلادك مضمان كي تدخل محدود تونس العذبة ادخل عالشطوط وامشي في الأمان أبدأ من القلعة زينة جذابة وتفرج بالعين في زين المرجان من بعد مشي للجميلة عنابة واطلع عالسيرايدي وانظر الكوان وتعدى الشطايب مناسبة وتعشي في سكيك دا زينة الالوان والطرف والقل كي جنة طيبة اتمتع بشطوطهم صيد وعمان واهبط من ثم لجيجل في رغبة وانظر التاريخ من عهد زمان في المنصورية حوالك تتلبى وادخل بجاية تعشي في الامان تيشي باسمها وماها رحابة وبجاية تاريخ راسخ في الديوان جوز الازفون شط مع غابة وعقب بلتيك زيرت والدلس عجلان اتمتع بشطوط دلس وتهبة واقصد بومرداس من ثماني شان بدوة واحدة عين طايا في القربة وتعافى من بعد في برج الكيفان
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue sa conversation avec Khaled Miloudi, poète et qui a découvert et s'est découvert, on pourrait dire, en prison. Khaled Miloudi, vous nous avez choisi pour en deuxième choix Rabat Driassa. Vous pouvez nous présenter un peu cet autre poète?
Oui, et c'est du charbi, on appelle ça du charbi.
Oui. C'est-à-dire ?
C'est musique à l'ancienne, hein, que mes parents écoutaient, que mon père écoutait notamment, instrumentale. Et en fin de compte, dans sa chanson qui dure 10 minutes, il a visité l'Algérie d'est en ouest, de nord au sud. Il a fait toutes les villes. Et là, sa chanson, il parle de chaque ville où il est passé et comment il a été reçu par les gens de la ville. Donc voilà, c'est un voyage et on traverse l'Algérie de ville en ville comme ça, comme de port en port quelque part. Donc quand je l'ai entendu et je me suis dit bah tiens c'est celle-là que je voudrais faire partager quoi.
C'est ça.
Voilà. C'est un voyage comme ça dans l'Algérie de ville en ville, comme ça, une balade émotionnelle, une balade retour à la source, quoi.
C'est une balade que vous avez faite vous-même, il n'y a pas si longtemps que ça, Khaled
Guelouni. Oui, il y a une quinzaine de jours, je suis rentré d'Algérie et ça, cela faisait 43 ans. 43 ans que j'étais absent.
Alors ça a dû être un bouquet d'émotions, d'autres émotions que celles que vous avez en prison.
Ouais, bien sûr, c'était bouleversant. J'ai revu ma sœur que j'avais pas vue depuis 43 ans, mes oncles, mes cousins. Voilà, j'ai renoué avec un bout de famille. Et c'est fou, quoi. C'est fou, et j'y retourne au mois de décembre, notamment pour revoir la famille, mais aussi pour déclamer de la poésie. J'ai été invité par l'archevêque d'Alger à déclamer mon spectacle avec Raphaël Goman à la cathédrale Notre-Dame d'Afrique.
Là, c'est la réconciliation de tous les monothéismes. Alors, oui, il nous dit de chanter à la cathédrale d'Alger avec Raphaël Goman.
Qui est juif, ouais.
Et pour vous, c'est inspirant.
Oui, ça me parle. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est important de fédérer dans cette période voilà, sombre où on essaye de diviser plus que de fédérer. Quels que soient les conflits, et oui, je trouve que c'est important de mettre en avant le fait qu'on peut être amis et même frères, quoi, voilà.
Alors, vous avez rencontré la littérature, vous avez écrit sur la littérature aussi, est-ce que vous pourriez pas nous dire un de vos poèmes, Khaled Miloudi, choisissez.
J'en ai plusieurs. Alors, je vais prendre la tournée des mots de l'ombre. Dans une coursive au parquet ciré, un vieux chariot grince, croule, roule, et puis s'arrête comme soulagé devant ma porte. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Ni un pont, ni un vulgaire jour férié. Non, mieux que ça, c'est la foire aux livres, c'est le marché aux mots, c'est la tournée des mots de l'ombre, c'est la littérature et la poésie qui déboulent, qui vont et qui viennent de cellule en cellule, avec leurs livres aux pages jaunies, tachées, cornées, froissées, trop souvent arrachées, dont plus personne ne veut et qu'on a mis au rebut. Des livres pour nous, les hommes de l'ombre. Des livres pour exiler la haine et faire entrer la vie. Des livres pour fissurer les murs et faire passer l'amour. Des livres pour résister le jour et voyager la nuit. Des livres pour récolter des mots et raconter son moi. Des livres pour rencontrer les autres et se trouver soi-même. Des livres pour découvrir le monde et lui offrir sa pomme. Des livres pour ranimer ses souvenirs, le temps et mieux penser demain. Des livres pour s'accrocher, se raccrocher à la nature humaine et avancer. Des livres pour aimer.
Merci. Alors, on voit dans ce poème, et on le voit depuis le début de l'émission, c'est que vous habitez finalement cette double culture, Khaled Miloudi. Vous habitez cette double culture qui était la langue de la famille, l'arabe qu'on parlait chez vous, et qui est la langue française. Elle ne vous a pas déçu, la langue française, Khaled Miloudi ?
Non, bien au contraire. Bien au contraire, quand j'ai voulu écrire un poème en arabe, que je déclame dans mon spectacle, je me suis rendu compte que j'étais incapable d'écrire en arabe. Il a fallu que j'écrive le poème en français et que je le traduise.
Oui.
Pourquoi ? Parce que ça faisait 50 ans que je pensais, que je vivais, que je me nourrissais de français. Mais par contre, je parle couramment ma langue maternelle. Hein. J'ai aucun problème à communiquer en Algérie avec...
Je me trompe si j'avance que la langue française... En vous rapprochant de vous-même, elle vous a rapproché aussi de l'Algérie. C'est son universalité, c'est l'universalité de toutes les langues.
Oui. En Algérie, j'ai été dans des petits bleds, hein, comme on dit, des douars. J'étais surpris de voir que les gens, les personnes âgées, les jeunes, parlaient correctement le français. Un français classique, très beau. Donc oui, effectivement, la langue française est universelle.
Alors, retourner en Algérie, c'était une manière de retourner aux sources. Ça couronne en quelque sorte la trajectoire que vous nous avez décrite ce soir, depuis l'arrachement, le sentiment de déracinement, la violence qui vous déchire, une violence incompréhensible, une violence qui vous habite et dont vous avez écopé en quelque sorte. Vous avez élaboré votre peine dans tous les sens du mot peine d'ailleurs, à travers la langue. Et cette langue, elle vous ramène en Algérie.
Oui. Oui. Elle me ramène en Algérie, elle me réconcilie aussi avec, avec les miens, avec ce bout de famille que, presque qui s'était un peu estompé quelque part, 43 ans, voilà,
c'est une vie.
C'est une vie. Et en fin de compte, je suis arrivé, j'ai été reçu comme un membre de la famille à part entière. Ils se sont disputés pour m'inviter chacun à venir manger. Et, vous savez, manger en Algérie, c'est presque une obligation. C'est presque une obligation. Mais oui. Et je vais créer ce pont entre la France et l'Algérie, que ça soit pour mes enfants, pour mes amis, j'ai des amis aussi qui veulent m'accompagner sur ce voyage-là. Donc oui, on peut recréer du lien avec sa terre natale, quelles que soient les années qui se sont écoulées.
Et votre rapport à la France, Raleigh Mélodi, votre rapport à la France, parce que ça vous a permis aussi de mieux comprendre pourquoi votre père était parti.
Oui, ça m'a permis de comprendre pourquoi mon père est parti, mais je crois que ça m'a... Le fait d'avoir pu mettre des mots sur mes souffrances, sur mes bleus à l'âme, sur ma vie, sur mes mauvais choix, sur mes failles, ça m'a libéré. Je peux dire que la langue française, que les mots, m'ont permis de devenir un homme plus libre que je ne l'étais.
Et donc vous êtes endetté à l'égard de cette langue?
Oui. Et j'adore... J'aime la partager, j'aime la transmettre, j'aime jouer avec les mots qui vibrent, qui sonnent, qui se coulent dans l'oreille presque. Et puis que ce soit par rapport au spectacle ou dans la transmission, puisque voilà. Dans mes ateliers, je sais écrire.
Vous faites maintenant des ateliers, vous êtes sorti de prison, vous avez terminé votre peine, vous avez créé une association, et dans le fond, vous consacrez votre temps, votre énergie, on peut le dire, parce que ça vous prend beaucoup de temps, Raleigh Mélodi, pour transmettre, pour faire des ateliers d'écriture, pour aider les autres, et on le voit d'ailleurs à un certain nombre d'ouvrages que vous publiez, qui sont les phrases des autres, pour essayer de leur proposer le chemin qu'a été le vôtre, Raleigh Mélodi.
Oui. C'est important pour moi. C'est important. J'étais déjà, je pense, habité par la transmission à l'intérieur. Quand je vous ai dit que j'avais créé cet atelier d'écriture qui s'appelait Les Mots de l'Ombre, quand j'ai monté aussi une troupe de théâtre aussi à la centrale de haute sécurité de Lannemezan aussi, avec des co-détenus aussi qui traînaient les pieds, au début. Et puis après, ils sont venus. Comment ?
Ils y sont venus.
Ils sont venus. Et après, étonnamment, puisque la metteuse en scène était charmante aussi. Ils étaient habillés comme des dandys, parfumés aussi. Et ils étaient tous. Mais malheureusement, voilà, l'administration pénitentiaire avait estimé que c'était un endroit où on allait peut-être fomenter une évasion. Donc voilà, l'atelier théâtre a pris fin. Malheureusement, la metteuse en scène a été remerciée. Mais oui, c'est important pour moi de transmettre. J'ai comme une forme de crédibilité, très humblement, puisque je coche un peu toutes les cases.
Oui.
Et voilà, je profite que cette oreille soit un peu plus attentive quand je prends la parole ou quand je leur demande d'écrire, pour essayer de les toucher dans le mille et de leur faire comprendre que c'est important de pouvoir mettre des mots sur ces bleus à l'âme, sur ces failles, que ça leur redonne confiance. Et puis je pense très humblement qu'il y a une raison dans ce souci, puisque le dernier atelier que j'ai fait pendant 7 mois dans une prison, notamment la maison d'arrêt de Chambéry, d'où ce recueil, mes mots, ma boussole, à 3 détenus qui viennent voir la prof en disant, voilà, j'ai rempli le cahier, un cahier de 60 pages, ils ont rempli le cahier. Ah oui. Donc voilà, il y a quelque chose qui est parti, qui s'est
fait. Ils ont pris le virus de l'écriture.
J'ai des co-détenus qui, parce que je leur ai donné des livres, j'ai partagé des lectures avec eux, aujourd'hui ils lisent énormément. Il y en a qui ont passé des diplômes et qui sont férus aussi de littérature. Donc oui, je pense que c'est important, cette transmission, pour moi, elle donne du sens à ma vie aussi.
C'est ça. Et alors, il n'y a pas que les détenus, il y a aussi les jeunes de l'aide sociale à l'enfance.
Bien sûr, là je retourne à Orléans CRN au mois d'octobre. Je travaille avec des jeunes qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance.
Donc un c'est une situation que vous avez connue aussi.
Que j'ai connue, qui me parle beaucoup. À l'époque, on appelait ça la DAS.
Oui.
Hein. Je vais dans les collèges aussi, je travaille avec des collégiens, des lycéens, dans les universités, avec les éducateurs aussi de la protection judiciaire des jeunesses de Roubaix.
Parce que à chaque fois, c'est un témoignage. C'est un témoignage de ce qu'a été votre parcours, Raleigh Mélodi, votre parcours de détenu, votre parcours de, d'enfant placé,
de vie, ouais.
d'une famille violente, et puis qui est terminé par, par des poètes et écrivains. C'est un témoignage, c'est un modèle, c'est une sorte d'identification possible pour les jeunes que vous rencontrez.
Bien sûr. Je leur dis, alors, de modèle, je ne prendrai pas là.
Non, mais modèle, on se comprend.
Oui, mais non, mais tout à fait, non, mais c'était important, moi, juste de vous reprendre par rapport à ça, parce que voilà, je pense que si j'arrive à les faire écrire, ce public-là, ce public difficile qui n'aime pas écrire, qui n'aime pas lire, hein. C'est parce que justement, j'essaie d'être authentique, et je ne suis pas le moralisateur, je ne viens pas pour leur raconter du pipeau. Je viens pour leur faire partager mon expérience de vie, et puis leur faire comprendre que ça va leur faire du bien, quoi. Qu'on va créer du lien, mais aussi que ça va leur faire du bien. Alors, ils ne le touchent pas tout de suite, mais petit à petit, j'ai des jeunes qui n'aimaient pas écrire et qui me disent « Non, je ne veux pas le lire devant mes copains, parce que voilà, il y a la difficulté aussi, parce que je leur demande d'écrire, mais après, on partage des textes. Il y a aussi l'oralité, et c'est important aussi. »
Ils ont honte de ce qu'ils ont...
Voilà, parce qu'ils ont dit des choses intérieures, des choses intimes. Il y en a qui m'ont parlé, il y a des jeunes filles qui me parlent de leur inceste, il y a des jeunes filles qui me parlent de prostitution, il y a des jeunes hommes qui me parlent de violence intrafamiliale et personne n'était au courant, même les éducateurs. Donc voilà, c'est important pour moi d'être authentique et d'être à l'écoute aussi de ces jeunes pour essayer de les aider à aller mieux.
Est-ce que vous vérifiez peut-être quelque chose qui me frappe, que l'authenticité appelle l'authenticité?
Bien sûr. Bien sûr, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Quand vous êtes vrai, on triche pas avec un public comme ça. Que ça soit avec des hommes de l'ombre, des femmes de l'ombre ou des jeunes, on triche pas avec eux. Ils le voient tout de suite. Si c'est une posture, ça tiendra pas.
Ça tiendra pas. Alors, on a beaucoup parlé de votre père, Khaled Miloudi, parce qu'on voit à quel point ça, il était important pour vous, que vous avez été séparé de lui et que finalement, c'est à la fois un héros et en même temps un bourreau, on pourrait dire. Et vous avez écrit un poème sur lui. On vous écoute.
Au creux de sa main. Quand j'avais 7 ans, je flânais avec mon père dans les avenues de la comédie humaine avec le sou du petit salaire pour dénicher la bonne affaire. De peur de me perdre, avant de fendre la foule dense, il me prenait la main dans sa main, un étau. Derrière son dos, large et massif, tiré, traîné et ballotté, je volais léger au-dessus des pavés comme un monarque sous le vent. J'en profitais pour caresser de mes bouts de doigts et de ma paume lisse la sienne, rugueuse, sûre à l'ouvrage, pour suivre les lignes et les méandres, m'arrêtant l'encre jetée à chaque delta, à chaque presqu'île de ses veines, jusqu'à sentir battre son pouls. En cet instant de grâce, lié, uni comme jamais, j'aurais aimé habiter et vivre au creux de sa main, au creux de cette main qui protège et qui parle, de cette main qui hier soir encore frappait. Peut-être mon père avait-il senti lui aussi les 1000 points de suture sur la paume de mon âme. Sur le retour, il avait plu. Il m'aidait en me tirant vers le ciel, à enjamber de grands troupeaux de nuages d'eau.
Merci Khaled Miloudi. Ce père, finalement, vous n'avez pas revu très souvent parce qu'il est mort quand vous étiez en détention. Ce poème, ce voyage en Algérie, peut-être vous a permis de vous rapprocher, de vous réconcilier avec lui.
Oui, bien sûr. De découvrir aussi des pans de mon histoire, des morceaux du Pulse qui me manquaient. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont connu là-bas, qui m'ont parlé de lui, des choses qu'il ne m'avait jamais dites, des actes qu'il avait posés aussi pour essayer d'aider aussi à sa manière. Son côté généreux aussi... Donc, oui, effectivement, je redécouvre aussi ce père qui me manque. Ouais.
Alors, il y a un terme, on terminera par là, mais il y a un terme qui revient sans arrêt, on pourrait dire qui est une sorte de boussole pour vous, Khaled Miloudi, c'est le nom que vous avez donné à votre spectacle et puis à votre association, dans l'ombre, la lumière. Dans l'ombre, la lumière, Khaled Miloudi.
Ben oui. Parce que l'ombre, je l'ai connue très très longtemps, et j'ai pu, grâce à l'écriture, à la poésie, à la littérature, j'ai pu déceler, toucher du doigt, comme un aveugle, comme ça, qui passe la main sur une œuvre. Il y a les couleurs du toucher, mais aussi, dans l'ombre aussi, il y a des couleurs.
Eh bien, merci beaucoup, Khaled Miloudi, d'être venu au micro d'Esprit de Justice ce soir. L'émission est terminée. À la technique, il y avait Timothée Hubert, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Laurence Genepin, une émission d'Antoine Garapon.